Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. » Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce temps de Pâques, il est fait pour que puisse grandir en nous notre foi en la résurrection du Christ, en la présence du Christ ressuscité. Comment est-ce que nous pouvons faire une expérience du Christ ressuscité à l'image de celle qu'a fait Thomas dans l'évangile que nous venons d'entendre? Comment est-ce que nous pouvons, nous aussi, entrer en contact avec le corps du Christ ressuscité, toucher le corps du Christ ressuscité? Eh bien, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire dans l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ ressuscité. Notre foi en la résurrection du Christ, elle devient petit à petit évidence dans la mesure où nous vivons à l'intérieur de l'Église, dans la mesure où nous vivons de la vie de l'Église. C'est ça qui nous permet petit à petit d'asseoir notre foi en la résurrection du Christ, de nous dire oui, oui le Christ est ressuscité, oui, à travers ma vie au sein de l'Église, je peux dire que le Christ est vraiment ressuscité. Dans tout le temps pascal, nous contemplons la naissance de l'Église, la conception de l'Église au moins, jusqu'au moment de la Pentecôte, qui va être la révélation au monde de l'Église. Aujourd'hui, nous entendons dans la première lecture ce passage du livre des Actes des Apôtres, où nous est décrite la première Église. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. Vous voyez cette description-là, très synthétique de ce que c'est que l'Église, avant même les grandes réflexions théologiques sur ce mystère de l'Église. On a là une description de la vie de l'Église qui est magnifique. Je voudrais insister parmi ces quatre choses qui nous sont dites là de l'Église. Écoute de l'enseignement des apôtres, vis en communion fraternelle, rompre le pain et participer aux prières. Et quatre éléments qui doivent être présents là dans toute vie que nous voulons être une vie d'Église. Je voudrais insister aujourd'hui particulièrement sur l'écoute de l'enseignement des apôtres. Pourquoi j'insiste là-dessus aujourd'hui? Eh bien, parce que vous savez qu'à Rome, aujourd'hui, c'est la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Et quel est le rôle du pape? Le rôle du pape, c'est d'être le magistère dans l'Église. Le pape comme successeur de Pierre et les évêques unis autour du pape, dans ce qu'on appelle notamment un concile, et bien sûr que quand on pense à Jean XXIII, on pense beaucoup au concile, c'est d'être le magistère dans l'Église, c'est-à-dire ce qui guide la transmission de l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, l'Écriture et l'enseignement reçu par les apôtres, il est transmis tout au long de l'histoire par l'Église. Et nous, pour pouvoir précisément être en contact avec l'expérience qu'ont fait les apôtres du Christ ressuscité, eh bien nous avons besoin d'être au sein de l'Église, en contact avec cet enseignement. Et le magistère, c'est celui qui est chargé de diriger, d'interpréter cette transmission de l'enseignement de l'Église. Donc, si nous voulons faire une expérience du Christ ressuscité, si nous voulons être confortés dans notre foi, dans la résurrection du Christ, nous avons à vivre dans l'Église, à vivre dans la communion fraternelle, nous avons à vivre de l'Eucharistie, là où, dès le début, on va rompre le pain, nous avons à participer à la prière de toute l'Église, mais nous avons aussi, et vous noterez que c'est en premier, à écouter l'enseignement des apôtres. Et nous avons la chance, à travers tous les papes de notre siècle, d'avoir une richesse d'enseignement, de transmission de l'enseignement de l'Église qui est extraordinaire. Et d'y voir réellement briller la splendeur de la vérité. Vous savez que c'était la volonté du pape Jean XXIII au moment de l'ouverture quand il a convoqué le concile Vatican II, c'était de dire, il faut qu'on fasse briller au monde, briller devant le monde, la lumière de la vérité. Voilà, ça c'est la tâche qu'il avait assignée à tous les pères du concile. La lumière des nations, Lumen Gentium, c'est le titre de la première constitution de Vatican II. Faire briller la lumière de l'enseignement de l'Église. C'est un des lieux particulièrement forts où nous pouvons être confortés dans notre foi, et particulièrement dans notre foi en la résurrection. Parce que nous voyons briller là celui qui est la vérité. Alors, encore faut-il se mettre en contact avec cet enseignement. Encore faut-il se mettre en contact avec ce magistère. C'est pas toujours très facile. C'est notre rôle à nous, pasteurs, de vous aider à être en contact avec ce magistère, mais ça suppose aussi de votre part de faire cet effort d'écouter, de chercher cette parole qui nous vient en particulier des successeurs de Pierre, en particulier des papes. Encore une fois, nous avons là un enseignement extraordinaire, que ce soit chez Jean 23, que ce soit chez Jean-Paul II, ou ceux qui leur ont succédé, mais particulièrement ceux-là que nous célébrons aujourd'hui. Dans l'enseignement de Jean-Paul II, il y a une richesse, une splendeur, en particulier, par exemple, sur la dignité humaine, sur le sens du corps, sur le sens du mariage, etc., qui est à connaître. Et si nous, chrétiens, on va pas la chercher, on va pas essayer de la connaître, qui la fera connaître au monde? C'est par nous que ça doit passer. Vous savez que Jean-Paul II a voulu le catéchisme de l'Église catholique dans la ligne du Concile Vatican II, pour rendre accessible justement tout cet enseignement de l'Église. Alors aujourd'hui, bien, en les célébrant, en étant heureux de savoir qu'ils sont comptés au nombre des saints du ciel, je pense que nous avons à renouveler notre volonté de mieux connaître l'enseignement de l'Église, de prendre les moyens de l'approfondir pour nous-mêmes, dans ce qui nous paraît peut-être des zones un peu d'ombre, pour nous-mêmes, eh bien, nous allons essayer de les travailler, de les chercher, d'aller regarder dans le catéchisme de l'Église catholique qu'est-ce qui est dit, lire peut-être telle ou telle encyclique. Elles sont quelquefois un peu dures, mais d'autres fois, elles se lisent assez bien, ou alors on prend son temps pour les lire. C'est un élément important. Et encore une fois, et je termine là-dessus, c'est pour nous une façon d'être au contact de l'expérience qu'ont fait les apôtres du Christ ressuscité. Et c'est sur cette expérience, et c'est sur le témoignage qu'ils nous ont donné, que nous appuyons notre foi dans la résurrection du Christ. C'est l'importance d'où l'importance que revêt pour nous cet enseignement de l'Église, cet enseignement des apôtres. Amen.